15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au yoga prénatal, que ce soit pour rester en forme, profiter pleinement, soulager les maux de dos, les nausées ou même mieux dormir. Les bonnes raisons de se lancer dans ce yoga spécial grossesse sont nombreuses avec notre invitée Émilie Gana, danseuse et prof de yoga prénatal. On fera le point sur cette pratique et vous verrez qu'il n'y a pas du tout besoin d'être une yogiste confirmée pour se lancer. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il nous parlera d'une étude française qui va changer la prise en charge des patients après un AVC. Elle a prouvé que traiter très fort le mauvais cholestérol permet à ces malades d'éviter la récidive. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler de la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive, qu'on appelle aussi la bronchite chronique. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre cette pathologie. On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Une question, est-il possible d'avoir une sexualité en couple épanouie sans aucune pénétration? Elle nous dira tout.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on écoute la première, c'est celle de Caroline, 31 ans.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Alors voilà, je prends des antidépresseurs depuis quelques mois. Et depuis, j'ai pris 6 kilos. Alors, je voulais savoir si vous pensez que ça avait un lien avec cette prise de poids, avec la prise de médicaments. Merci, au revoir, bonne journée.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, est-ce qu'effectivement la prise de poids de cette jeune femme, elle peut être directement causée par son traitement antidépresseur?
Oui, effectivement, cette prise de poids peut être liée à son traitement, les antidépresseurs. C'est vrai notamment pour une famille particulière qu'on appelle les tricycliques, mais c'est aussi vrai pour d'autres médicaments à visée psychiatrique, notamment les neuroleptiques qui font grossir. Donc, vous avez la famille donc des tricycliques, le Prozac, qu'on connaît bien, le Deroxate, qui est aussi connu, et on sait qu'on peut avoir 10% de prise de poids lors du traitement, ce qui veut dire que quand on fait 60 kilos, c'est 6 kilos qu'on peut prendre. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent à l'instauration du traitement assez rapidement, qui régresse lorsqu'on arrête le traitement. En règle générale, un traitement antidépresseur se prend pour une durée donnée, et puis on l'arrêtera, mais effectivement, la prise de poids, elle est possible, et surtout, lorsqu'on veut les perdre, c'est parfois un peu plus lent que prévu, mais on finit par les perdre.
D'accord. Alors, comment on explique cette prise de poids avec ces antidépresseurs? Ça s'explique comment?
Eh bien, ces antidépresseurs, ils agissent au niveau du système nerveux central, et plus particulièrement au niveau de l'hypothalamus, où se trouvent les centres de régulation de la faim. C'est l'endroit où ça régule la satiété, l'envie de manger, donc on va perturber ces signaux, ce qui fait que artificiellement, on va avoir en plus envie de manger, donc on va prendre du poids. Et puis, il y a aussi un peu plus de dopamine qu'on va sécréter et un peu moins de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, c'est un mécanisme purement chimique et ce n'est pas lié forcément à un trouble du comportement.
D'accord. On comprend mieux comment le fonctionnement, on va dire, chimique. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison, on est d'accord, pour arrêter son traitement antidépresseur qui reste très important. D'autant que Jimmy, en dehors même des médicaments, la dépression en elle-même, elle peut faire grossir elle aussi.
Exactement. La dépression est marquée par la perte d'envie. La perte d'envie de se lever, de marcher, d'aller travailler, de bouger. Donc effectivement, vous avez moins d'activité physique, parfois un régime aussi anarchique parce qu'on mange moins bien, on a moins envie de cuisiner.
On a des fringales énormes,
exactement.
Aussi.
Et on a aussi en plus parfois des troubles du comportement alimentaire avec des accès de boulimie. Donc évidemment que la dépression peut faire grossir, les traitements aussi, mais ce n'est pas une raison d'arrêter son traitement. Au contraire, il suffit d'en parler, de consulter une diététicienne et puis évidemment d'être surveillé parce que qui dit augmentation du poids dit peut-être aussi augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, apparition d'un diabète, cholestérol. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison d'arrêter son traitement.
Très bien. Donc sous antidépresseur, surtout, il ne faut pas lâcher son traitement. Effectivement, la dépression, une fois soignée, grâce à ces médicaments, la vitalité va revenir et sûrement les kilos repartir. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Eric, 33 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Mon père a une prostatite. Son médecin lui a dit que ce n'était pas très grave, qu'avec un traitement, ça allait disparaître. Mais je m'inquiète un peu. C'est quoi au juste une prostatite? Merci, bonne journée.
Alors Jimmy, on va rassurer tout de suite Eric, la prostatite d'abord ça n'a rien à voir avec un cancer de la prostate, il faut le dire. En fait le IT à la fin de prostatite, ça signifie inflammation quoi.
Exactement, alors on dit plus trop prostatite maintenant, on doit dire infection urinaire masculine.
D'accord.
Bon, pour dire que c'est finalement le symétrique d'une infection urinaire féminine, donc c'est une infection de la prostate qui donne une inflammation. C'est 5 à 10% des hommes qui en auront une dans leur vie.
C'est fréquent quand même,
c'est très
presque un homme sur 10 en fait.
Exactement, hein, et ça augmente effectivement avec l'âge parce que ça augmente avec la taille de la prostate. plus la prostate est grosse et plus on a un risque d'infection de celle-ci.
Et elle grossit en vieillissant, ça on l'a dit il n'y a pas longtemps dans l'émission justement.
Exactement, et l'infection donc elle est bactérienne, principalement des entérobactéries d'origine fécale, parmi celles qu'on appelle l'Escherichia coli, qui est la plus fréquente.
Alors comment on sait qu'on a une prostatite ? Est-ce que l'homme il le sent tout de suite ? Il a des symptômes ? Oui, ça, ça passe pas
inaperçu. La prostatite donne déjà de la température et une fièvre assez élevée, assez marquée, 39-40. Et puis il a souvent des signes urinaires. Donc c'est soit des brûlures mictionnelles, ça brûle quand je fais pipi, j'y vais très souvent. Il peut y avoir un peu de sang dans les urines, des douleurs abdominales. Et donc les symptômes sont très marqués en règle générale. Ils finissent par consulter parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas la gastro, qu'on n'a pas la rhino. Et parfois, on a mal au niveau du ventre, ça donne des douleurs abdominales. Donc à ce moment-là, il faut consulter.
Et on consulte même peut-être en urgence, parce que je crois qu'il y a même à des stades très sévères, à un moment où on n'arrive même plus du tout à faire pipi.
Évidemment,
hein,
c'est comme si une infection bactérienne, déjà ça peut donner une septicémie lorsqu'elle n'est pas traitée. Et puis parfois, il y a des risques de rétention aiguë d'urine. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à pisser, on pisse goutte à goutte. Et à ce moment-là, il faut consulter parce qu'il y aura un risque de retentissement au niveau des reins. Et donc, on ne laisse pas traîner à ce moment-là.
Et très rapidement, ça se traite, hein, mais le traitement, il faut qu'il soit long. Hein,
traitement antibiotique, avant traiter 3 semaines, maintenant 2 semaines suffisent parce que la prostate est un organe enfoui, caché, difficilement accessible aux antibiotiques. Donc, c'est minimum 2 semaines de traitement. Sinon, il y a un risque de récidive, on n'arrête pas son traitement au bout d'une semaine et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup. Et la prostatite chronique, c'est un autre sujet. On a parlé de la prostatite aiguë aujourd'hui. On en parlera bientôt dans une autre émission. Merci Jimmy. Si vous aussi, comme Eric qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques de récidive d'AVC et surtout d'un nouveau traitement qui permet, en traitant très fort le cholestérol, d'éviter ce risque. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, Émilie Yana, avec qui on va parler des bienfaits du yoga prénatal. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Émilie Yana, on vous dira tout avec elle sur les bienfaits du yoga prénatal. Pour l'instant, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed que vous venez d'entendre tousser, parce que même les docteurs ça tombe malade. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui a été menée par le professeur Amarenko qu'on avait reçu sur le plateau. C'est le chef du service de neurologie de l'hôpital Bichat qui s'est intéressé au risque de récidive chez les patients qui ont eu un AVC à cause de l'athérosclérose, donc du cholestérol. Expliquez-nous.
Bah en fait, on sait que le risque de récidive après un AVC reste élevé. Il est à près de 13% à 5 ans. Et après un infarctus cérébral ou un accident ischémique transitoire d'origine athérosclérose, c'est-à-dire qui est lié au cholestérol, on sait qu'il est recommandé de prescrire un traitement qu'on appelle les statines.
L'athérosclérose, on précise quand même pour les gens qui ne savent pas,
c'est
quand ça se bouge dans les vaisseaux, dans les artères.
Et que ça bouge les artères. Et donc, on sait qu'il faut donner un traitement à base de statines pour lutter contre le mauvais cholestérol. Sauf qu'on ne sait pas exactement quel seuil il faut avoir pour limiter le risque d'AVC. Et donc, cette étude s'est intéressée à est-ce que donner du cholestérol, un traitement contre le cholestérol à forte dose serait plus efficace que les valeurs actuelles, parce que pour l'instant, on recommande un cholestérol à 1 g par litre pour le mauvais cholestérol, et on se demande si donner un peu moins de cholestérol pourrait limiter ce risque.
Alors, quelle a été leur hypothèse de seuil, justement, de cholestérol ? Il faudrait descendre en dessous de 1 gramme. Alors, pour les gens qui ont du cholestérol, ça parle sûrement. 1 gramme, donc, de cholestérol par litre.
L'hypothèse testée, c'est qu'il fallait atteindre un seuil inférieur à 0,7 gramme par litre contre 1 gramme habituellement. Et pour ça, ils ont recruté près de 3000 patients. Et on a divisé en deux groupes. Un groupe qui avait une valeur cible à 1 gramme de cholestérol et un autre à moins de 0,7. Et on s'est dit, est-ce que ceux qui sont à moins de 0,7 font moins d'AVC que les autres ?
Et alors, justement, qu'est-ce que ça montre ?
Cette étude montre que la baisse supplémentaire du mauvais cholestérol en dessous de 0,7 g par litre évite plus d'une récidive sur 5 grâce à un traitement statine un peu plus fort, associé parfois à un deuxième traitement. Et si on s'intéresse aux patients dont l'AVC a été prouvé par l'imagerie, la récidive est diminuée de près d'un tiers. Et donc, c'est une avancée majeure en termes de prévention des AVC.
Ça va changer les pratiques, clairement.
Et les recommandations internationales devraient s'aligner sur ce chiffre de 0,7. Pour l'instant, c'est 1 gramme pour l'agence du médicament. Et évidemment que ça met en rôle et en lumière le rôle du cholestérol dans l'accident vasculaire cérébral. Et on se dit peut-être que si on a 0,7, il faudrait peut-être encore diminuer un petit peu plus. Et on émet l'hypothèse qu'il faudrait peut-être atteindre 0,5 grammes par litre pour essayer de diminuer ça. Évidemment que ça ne suffit pas. Il faut lutter contre la prise de poids, avoir une tension équilibrée, arrêter le tabac. Donc c'est une mesure supplémentaire dans la lutte contre l'AVC.
Contre la récidive même d'AVC. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Et tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est Émilie Yana. Elle est danseuse et prof de yoga prénatal. Elle est aussi l'auteur du livre « Mon petit cahier yoga prénatal » chez Solar Éditions.
15h-16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Emiliana.
Bonjour.
Alors d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, le yoga prénatal, c'est quoi ? Bon, on voit à peu près ce que c'est le yoga, mais j'imagine que ça, c'est une forme de yoga qui s'adapte finalement au ventre rond.
Qui s'adapte à la grossesse et aux changements, aux modifications corporelles et physiologiques et hormonales. Tout le long de la grossesse, en fait.
Et on prépare surtout quoi avec ce type de yoga ? Son corps, son esprit, par rapport à l'accouchement ?
Majoritairement son corps. On prépare son corps, notamment dès le début de la grossesse, à accueillir ce bébé qui va grossir, cet utérus qui va grossir, à faire de la place dans le ventre, à pouvoir continuer à respirer jusqu'au bout, s'étirer le corps, et voilà, quoi.
Jimmy. Et est-ce qu'on peut commencer le yoga même quand on n'en a jamais fait ? Est-ce qu'il faut déjà avoir pratiqué un petit peu ? Parce que on est enceinte, on n'est pas forcément plus très à l'aise.
Non, au contraire, si on n'en a jamais fait, c'est une bonne entrée en matière. Ça va être des postures assez simples et plutôt toujours adaptées. De toute façon, l'idée, ce n'est pas de mettre son pied derrière
la tête.
Surtout avec un gros ventre, ce n'est pas le meilleur moment.
Voilà.
Déjà, même sans gros ventre, moi, j'y suis jamais arrivée. Jimmy, par contre, vous mettez le pied derrière la tête, je crois. Les deux mêmes.
Dans vos rêves, Mélanie seulement, mais non.
Non, ça va aussi beaucoup aider à canaliser,
à respirer
et du coup à libérer aussi les tensions et à gérer son stress.
Donc
aussi.
Pas de notion de performance, on n'essaie pas de faire des choses extraordinaires, c'est juste
non,
du plaisir et de la relaxation.
Non, on essaie juste d'avoir un ventre, d'assumer un ventre qui grossit de plus en plus pendant 9 mois sans faire trop de dégâts.
Et justement, il faut commencer à quel stade de la grossesse ? Dès le premier trimestre, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on peut se lancer
Moi, je conseille parce que c'est vrai que même si on n'a pas beaucoup de ventre au départ, il y a quand même un bouleversement hormonal qui fait que on va avoir des nausées, enfin on peut avoir des nausées, on a les ligaments aussi qui deviennent plus souples à cause des hormones, de la relaxine, tout ça. Donc c'est comment on peut vraiment s'adapter. Donc au premier trimestre, c'est certains maux. Au deuxième trimestre, on a un ventre qui est déjà un petit peu plus présent, c'est gérable encore, mais voilà. Et c'est comment on prépare son corps aussi jusqu'à l'accouchement.
À chaque trimestre, un peu ces exercices, hein, c'est ça ?
Oui.
À chaque trimestre de grossesse,
d'accord.
Les mamans qui arrivent, en général, elles arrivent à quel stade pour vous ? Elles arrivent peut-être pas toujours au premier trimestre quand même, au deuxième plutôt
En fait, si c'est... En général, on arrive au dernier trimestre parce que c'est le moment du congé maternité et qu'avant ça, on travaille, on n'a pas le temps, on ne connaît pas.
Mais c'est un peu tard.
C'est dommage, disons. C'est pas tard, mais c'est dommage.
Alors Emiliana, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. On vous détaillera même quelques postures de yoga. Jimmy va les tester. Celles qui font du bien plutôt au premier trimestre, les fondamentaux pour soulager les maux de dos quand le ventre s'arrondit. Et puis même, vous verrez qu'il y a certains exercices de respiration qui peuvent aider aussi contre les nausées. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, Emiliana, elle est danseuse et prof de yoga prénatal. Alors Emilie, avant tout, comment on choisit son cours de yoga ? Parce que je vais dire la vérité, moi j'en ai testé un pendant ma deuxième grossesse, une fois. J'ai pas trop aimé quand même, parce que je suis tombée dans un cours qui était assez mou finalement. Ça m'a pas plu, mais est-ce qu'il y a un critère pour bien choisir déjà ?
Je pense que ça dépend de son niveau, de ce qu'on cherche, et aussi en général, les cours de yoga prénatal, c'est vraiment pour les fins de grossesse. Voilà. C'est vrai que pour en milieu de grossesse, quand on se retrouve avec des femmes de 2 mois, 3 mois de plus avancées dans la grossesse, on n'y trouvera pas forcément son compte.
C'est ça qui m'a posé problème. Moi, j'étais enceinte de 4 mois, je crois, et je me suis retrouvée avec des nanas qui étaient pas loin d'accoucher, quoi. Donc
C'est vrai qu'il y a pas entre les deux, enfin entre le premier trimestre, on peut continuer à prendre des cours de yoga
quasi
à son niveau,
Le
milieu de la grossesse où ça commence à déranger, où il faut commencer à faire un peu attention, et le dernier trimestre où là, il faut carrément adapté. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Entre les deux, c'est compliqué. C'est vrai.
Est-ce que le yoga peut aider à limiter la prise de poids durant la grossesse ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est une activité physique, donc on va
Parce
travailler...
Parce que quand on entend yoga, on pense posture un peu gnangnan, un peu lente,
ça,
pas
c'est
du
vous
tout
qui
physique.
Pensez ça. Hein.
Essayez
un cours de yoga, vous verrez que vous aurez mal aux fesses.
Mais je sais que finalement, c'est très physique et que c'est un vrai exercice musculaire.
C'est pas très physique, mais je veux dire, c'est moins physique qu'un cours de yoga... Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on bouge. Et donc, quand on bouge, on fait circuler le sang, On va travailler les jambes, on va travailler le dos, on va travailler les abdos profonds, pas les grands droits. On va délier la colonne, on bouge quoi. Donc à partir du moment où on bouge, quand on est ensemble, c'est tout bénef. En fait.
Parfois, ça peut être quand même assez intense. Hein. Je croyais aussi que faire du sport trop fort pendant la grossesse, ça faisait monter un peu trop la température corporelle et qu'éventuellement il y avait un risque. Là, il n'y a pas de risque avec le yoga, ça va quand même.
Non, ça va. Après, c'est parfois plus intense d'habiter au quatrième étage sans ascenseur et d'être enceinte de 8 mois hein, avec des courses. Et voilà, c'est ça.
Au premier trimestre, qu'est-ce que vous allez faire en priorité comme type d'exercice? Est-ce que à ce moment-là, on a souvent par exemple des nausées. Qu'est-ce qu'on va faire par
priorité? Alors là, ça va être plus des exercices d'ouverture des côtes. Et en fait, avec les hormones, la digestion va être beaucoup plus lente.
Donc plus constipé en début de grossesse, parfois.
Oui, ça c'est tout du long.
Ouais, c'est vrai.
c'est tout du long.
Commence dès le début, alors autant s'y mettre.
Mais par contre, pour soulager les brûlures d'estomac, les nausées, ça va être un exercice d'ouverture ici des côtes et d'étirer tout le haut du dos et du diaphragme.
C'est ça, ouais.
Voilà,
le diaphragme, c'est où, rappelez-nous, pour ceux qui ne sauraient pas.
C'est sous la poitrine.
C'est ça.
Et ça suit le mouvement des poumons. Quand on inspire, les poumons se gonflent et le diaphragme descend. Et quand on expire, on fait remonter le diaphragme, on vide les poumons. Et voilà. Et du coup, ce mouvement-là masse les viscères de respiration abdominale. Ça masse les viscères et ça permet de relancer le transit, la digestion, tout ça.
Déjà, on aime bien. Jimmy ?
Et au deuxième trimestre, le ventre commence à s'arrondir. On met l'accent sur quoi lorsqu'on fait du yoga ?
Sur la posture. On met l'accent vraiment là sur... Comme le ventre va grossir, on va tendance à se tenir légèrement cambré, et là on tasse les lombaires et c'est ça qui va amener tout ce fameux mal de dos en permanence. Et voilà, donc on rétablit la posture, on étire et on travaille les jambes, on muscle plus les jambes et on travaille aussi les abdos, les obliques et
ça, les abdos dans le yoga prénatal, moi ça m'a surpris. Je pensais que les abdos, on oubliait pendant la grossesse. Clairement, c'est sous le gros bidon, on n'y touche pas. On fait travailler les abdos pendant le yoga prénatal.
Ça dépend lesquels, parce qu'en fait...
Ça m'arrange, il y a quand même des tablettes de chocolat sous le...
Alors voilà. Il y a les grands droits, ça c'est ce qu'on voit, c'est les tablettes de chocolat. Ceux-là, on n'y touche pas. Ils sont devant, ils s'étirent et on les laisse tranquilles. Parce que si on les contracte, c'est comme un élastique en fait. On va plutôt travailler en étirement. Et si on force dessus, ça s'écarte. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Par contre, à côté, on a les obliques et en dessous, on a les transverses. Et ceux-là, ils sont hyper importants parce que c'est des muscles stabilisateurs et ils agissent avec les muscles dorsaux. Donc c'est eux qui vont vous permettre d'avoir la bonne posture et de pas être totalement avachi, cambré ou voilà quoi.
En musclant, on a moins mal. Alors Emiliana, on va poursuivre cet entretien dans 3 minutes. Surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler notamment de l'importance de l'apprentissage de plusieurs techniques de respiration dans les séances de yoga prénatal. Par exemple, la respiration profonde qui permet de soulager des problèmes de transit qu'on peut avoir aussi pendant la grossesse, les remontées assises notamment. On parlera aussi d'autres bienfaits. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Émilie Yana. Elle est danseuse et prof de yoga prénatal. Alors ça tombe bien, c'est notre grand dossier du jour, le yoga prénatal. Émilie, pour ceux qui ont décidé de se lancer, une femme enceinte donc qui veut s'y mettre, l'idéal, vous avez dit, c'est de le faire donc dès le premier trimestre. Mais à quel rythme il faut le faire d'abord? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est quoi l'idéal?
Moi j'ai envie de dire que c'est chacun qui se gère selon l'envie. Il faut surtout pas se forcer. Si c'est une fois par semaine qu'on a le temps de s'y mettre une heure, tant mieux. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. En fait, tant qu'on prend ce qu'on peut prendre, quoi. Voilà, et surtout sans contrainte. Voilà, parce que il y a rien de pire que de se dire alors là c'est mardi, j'ai dit que
c'est
à midi,
obligé, je vais au yoga. Non,
c'est pas la peine, quoi.
D'accord.
C'est,
voilà. Le yoga prénatal, ça permet notamment de préparer un peu son périnée et donc de se préparer à l'accouchement. Comment,
oui,
concrètement?
En fait, le périnée, souvent avant d'être enceinte, on n'a jamais entendu parler.
C'est même pas qu'il existe.
Voilà. Et pour autant, c'est un organe quand même hyper important parce que c'est celui qui permet de ne pas être incontinente.
Ça soutient tous nos organes. Jimmy, voilà. C'est pas le périnée, pour le redire un peu médicalement.
C'est la zone en fait qui est entre l'anus et le vagin, qui contient les organes, notamment la zone du pelvis, et qui se déforme avec la grossesse. Même lorsqu'on a une césarienne et qu'on n'a pas accouché par voie basse, il faut rééduquer son périnée, parce que le risque, vous l'avez dit, c'est d'ailleurs que les muscles se relâchent et qu'on soit incontinent par la suite, des difficultés lors des rapports sexuels. Donc les séances de rééducation périnéale sont vitales après l'accouchement.
Et donc dans le yoga prénatal, on peut vous faites du bien à notre périnée, qu'est-ce qu'on le comment vous le sollicitez par exemple?
Et ben par exemple, ça va nous permettre à l'accouchement d'avoir un périnée beaucoup plus élastique et pas ni trop contracté. Par exemple, dans le cas des sportives, des grandes sportives, souvent c'est trop contracté et du coup, le passage du bébé, c'est dans ces cas-là que ça peut se déchirer.
Vous faites des étirements, vous faites quoi?
On travaille vraiment comme un élastique. On étire, on contracte, on étire, on contracte. On travaille son élasticité et du coup, c'est un muscle, hein, donc il faut le travailler. Et c'est comme si c'était un hamac qui portait tout le poids de l'utérus tout le long de la grossesse. Donc bien évidemment, dans les derniers temps de la grossesse, c'est de plus en plus lourd. Donc même par césarienne, il aura quand même été affaibli parce que c'est lui qui soutient tout, quoi.
Dimi?
J'ai toujours cru, ou je sais pas si c'est peut-être une idée reçue, que la respiration avait une importance majeure dans le yoga. Vous expirez, vous inspirez.
Ouais.
Est-ce que ça peut peut-être aussi aider au moment de l'accouchement, de souffler au bon moment des contractions, de se relâcher, ou finalement cet exercice de respiration, il est pas
Non, c'est important de respirer, mais c'est important pour... surtout pour canaliser son stress et pour se concentrer sur autre chose. Et ce qui va être important surtout à l'accouchement, c'est d'être dans la bonne position. Vraiment, d'avoir une position anatomique naturelle pour que le bébé puisse passer. Et la respiration aide. Parce que au plus on respire profondément, au plus le diaphragme peut descendre, remonter, au plus ça veut dire que le corps est aligné et que le bébé peut s'engager.
Comment on respire en yoga, par exemple? Expliquez-nous, là, faites une petite séance rapide.
En l'occurrence, en yoga prénatal, on va insister sur la contraction du périnée lors de l'expiration. Donc, on va parler de respiration abdominale et de respiration profonde, c'est-à-dire que sur l'inspiration, on prend son souffle par le nez, on gonfle le ventre, et sur l'expire, on engage le périnée, on contracte le périnée et on vide son ventre comme si on voulait aller coller son nombril à la colonne vertébrale. Ainsi, on permet au diaphragme de remonter complètement et aux poumons de se vider complètement et de travailler le périnée.
Il faut qu'elle soit très profonde, hein, cette respiration. C'est ça que vous nous apprenez en cours. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais,
et les femmes, elles ne savent pas le faire en général quand elles arrivent. On respire un peu trop saccadé.
Sans être enceinte, hein, en fait, oui, même dans la vie.
manière mécanique, et c'est pas quelque chose.
D'une manière générale, la respiration aujourd'hui, c'est pas si évident que ça.
Comment on soulage les maux de dos de la grossesse avec le yoga?
Alors, en étirant. Toujours.
Il y a des postures particulières qui font du bien?
Oui, il y a la posture de l'enfant.
D'accord.
Qui est assez efficace, qui est très facile à faire tout le long de la grossesse. On est sur ses genoux, on a les fesses sur ses talons.
Dimi sur ses genoux, là ça y est, les fesses sur les talons, c'est bien, bravo, en position.
Et on étire les bras au sol.
Étirez mieux que ça, Dimi, allez, attention.
Non mais j'ai un corps de lâche, je sais, mais ne vous moquez pas.
Non, du coup, c'est toutes les postures pour soulager le bas du dos. Ça va être toutes les postures où les genoux sont au-dessus du bassin.
D'accord.
Voilà, pour étirer la zone lombaire, notamment.
Vous avez compris?
Ouais. Oui, très bien. Oh c'est bien, parce que non, mais les problèmes de dos, c'est un problème récurrent. Et souvent, en plus, on ne peut pas donner beaucoup de traitements. Donc, les femmes qui ont mal au dos, si on peut les soulager par le yoga, c'est une très bonne chose. Mais donc, on peut étirer le dos et on peut aussi étirer le ventre, apparemment. Il y a une posture qui permet...
C'est un peu la même, non, je crois?
Il y a la posture de l'enfant qui est évidemment... en fait, quand on étire le dos, fortiori, on étire le ventre. Quand on est dans la bonne posture. Et il existe aussi, pour soulager, si vraiment, vraiment, on a un ventre qui penche trop, qu'on a trop mal, parce que la posture, c'est un problème qu'on peut avoir déjà avant d'être enceinte.
Il y a des femmes qui sont trop cambrées, d'autres qui sont...
Ça, c'est pour tout le monde. Et il existe des ceintures lombaires, la ceinture physiomat, qui est spécialement conçue pour les femmes enceintes et qui soutient le bas du dos.
Comment vous nous aidez à mieux dormir grâce au yoga prénatal quand on est enceinte?
On respire.
Aussi.
On respire là aussi et on ouvre les côtes. Et vraiment, la respiration, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vraiment ce qui permet de se poser, de se désangoisser.
Je crois qu'il y a des postures un peu vitalisantes, en fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on va chercher du vitalisant pour dormir.
Il y a des postures énergisantes qui fait que quand on est fatigué, et on est souvent fatigué quand on est enceinte, ça permet de relancer un peu, de refaire circuler, de remettre un petit coup de boost, notamment quand on travaille ou quand on... quand on a d'autres enfants, quand la vie, quoi.
Ouais, ça continue, on est enceinte,
la vie
mais
continue.
Ça s'arrête pas.
Donc là, il existe des postures, effectivement, pour permettre de booster un peu. Et aussi, il existe des postures pour relâcher, calmer, se poser Et voilà.
Pour terminer, je crois que vous allez d'ailleurs écrire un livre bientôt là-dessus, mais il y a aussi le yoga postnatal. Donc là, on est passé, oui. Ça y est, on a accouché. Oui. À partir de, ça sert à quoi le postnatal, le yoga postnatal?
Ah bah ça sert à remettre tout le chantier en place. Hein, c'est-à-dire
une fois l'accouchement passé, bah, voilà. Hein. On peut le faire à partir de quand?
Dès la table d'accouchement.
Ah
en
oui,
fait,
d'accord. Bah, direct, bon, on va dire maintenant 2-3 jours quand
pas
même.
Pas une séance évidemment, mais il existe des petites choses pour aider à remettre en place plus vite.
Et ce sera l'objet de votre prochain bouquin. Merci voilà. beaucoup, Émilie Yana, d'être venue sur notre plateau, nous éclairer sur cette discipline, le yoga prénatal, qui a l'air effectivement de procurer pas mal de bienfaits aux femmes enceintes. Je rappelle le titre de votre livre, Mon petit cahier, Yoga prénatal chez Solar Édition. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive. Un nom un peu barbare pour une maladie respiratoire très handicapante. C'est la journée mondiale aujourd'hui contre cette pathologie sur laquelle on va vous éclairer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive. Alors c'est un nom un peu barbare pour une maladie respiratoire très handicapante. Mais vous, savez-vous de quoi il s'agit? Que se passe-t-il dans les poumons quand on est atteint? Comment ça se traite? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
BPCO
Alors BPCO, pour moi, aucune idée.
Banque Populaire Centre-Ouest, mais ça n'a rien à voir.
B, je pourrais bouche, P, pancréas, C, colon et O, organe.
C'est un acronyme pour ceux qui fument beaucoup.
Bronchopneumopathie, ça fait beaucoup de noms ça.
Très très grosse infection du poumon.
Lors d'un effort, être essoufflé plus rapidement que les autres.
Les personnes qui travaillent au milieu de la poussière.
C'est souvent une toux qui est assez sèche. Qui est répétitive. Et là, pour le coup, bah, c'est là où on voit concrètement l'expression populaire, c'est de dire cracher ses poumons.
Dès que ça touche au poumon, ça devient relativement grave.
Bon, bah déjà, on va traiter les causes. On est dans le mois sans tabac, donc c'est l'occasion d'en parler. Arrêter de fumer.
Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la BPCO. C'est vrai qu'on est aussi, comme l'a dit la jeune femme qu'on vient d'entendre, en plein mois sans tabac. Et justement, rien que le nom de cette BPCO, ça fait peur, c'est vrai. Du coup, Jimmy, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est que cette BPCO?
Alors, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches et qui s'exprime comme une bronchite chronique. On tousse et on crache toute l'année. Et au fur et à mesure, on a de moins en moins de souffle. Et c'est lié au fait que la paroi des bronches et des bronchioles deviennent plus inflammatoires, plus épaisses et sécrètent plus de mucus. Parallèlement à ça, les toutes petites bronches et les alvéoles se deviennent de moins en moins élastiques et du coup se contractent moins et fait qu'on a moins de souffle et qu'on est plus encombré. Et enfin, à un stade plus important, il y a une perturbation des échanges gazeux qui fait que les alvéoles deviennent détruites. Et là, c'est un stade un peu supplémentaire qu'on appelle l'emphysème. Et ça évolue par la suite vers l'insuffisance respiratoire chronique, dite parfois terminale.
Ouais, c'est très très grave.
Il faut de l'oxygène en long cours.
Alors pourquoi on peut se mettre à souffrir d'une BPCO? Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qu'on a entendu dans le micro-trottoir qui avaient l'air d'avoir une bonne piste. Le tabac, Jimmy, on est d'accord, ça reste quand même la principale cause. Hein.
Exactement, c'est 80% des BPCO sont liés au tabac. Donc, et le tabac, c'est notamment soit la durée d'exposition qui est très importante, et puis la quantité. Plus vous fumez et plus vous fumez longtemps, plus vous avez un risque évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt du tabac, quel que soit le stade de la maladie, parce qu'il y en a plusieurs, on a le stade de bronchite chronique, on tousse au crash, on ne se rend pas compte. On est essoufflé pour des petits efforts, enfin pour de grands efforts, pardon. Puis essoufflé pour, au moindre effort, monter un étage devient insurmontable. Et puis, on a parlé du dernier stade de l'oxygène à
domicile qu'on va avoir, l'emphysème. On ne peut plus respirer, donc, on a besoin parfois d'oxygène. Hein,
exactement. Mais... Et quel que soit le stade de la maladie, l'arrêt du tabac est bénéfique.
Toujours. Et exactement. Ça, c'est très important. À quelle fréquence on a cette maladie en France? Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de gens qui sont touchés ou pas?
Oui, c'est 7,5% des adultes de plus de 40 ans. Ça représente environ 2 millions de personnes.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
120 000 hospitalisations pour BPCO et c'est 16 000 décès par an liés à la BPCO. Donc c'est une maladie qui tue. D'autant plus que la BPCO, lorsqu'on fume, eh ben, on a aussi d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. On en parle souvent.
On risque l'infarctus.
Exactement, d'AVC. Et donc vous avez peut-être aussi un peu de diabète, un peu de surpoids. Et derrière ça, vous pouvez effectivement décéder d'autres maladies.
Bon, on va dire un mot rapide quand même des traitements. Il y en a plusieurs, mais parfois, bon, bah, évidemment, ça n'empêche pas la maladie de s'aggraver. Mais qu'est-ce qu'on peut quand même proposer à ces patients-là?
Alors, le premier traitement, c'est l'arrêt du tabac, évident. On est dans la période du mois sans tabac. Donc, arrêter de fumer pourra évidemment
le meilleur
améliorer.
Traitement dans un premier temps.
Et puis après, tous les autres traitements, on ne va pas rentrer dans les détails, mais permettent simplement de stabiliser la maladie. Vous n'aurez aucun traitement curateur de la BPCO. On va juste ralentir l'évolution pour vous permettre d'éviter, notamment là, c'est la période des virus. en cas de rhinopharyngite, de faire de grosses bronchiques, de grosses surinfections.
Donc c'est des inhalateurs,
c'est
des
bronchodilatateurs.
Ouais, d'accord.
Un peu comme les mêmes traitements lors de l'asthme.
D'accord.
Le but, c'est d'augmenter le calibre des bronches pour mieux respirer, sécréter un peu moins de mucus. Mais encore une fois, le seul traitement qu'on doit recommander, c'est l'arrêt du tabac.
Et juste un dernier mot, tous ces patients-là, ils doivent se vacciner contre la grippe.
Évidemment, ils ont reçu sûrement un petit bon. Faites-le, la grippe tue. Vous
surtout
pouvez...
quand on a une BPCO.
Exactement. Si vous ne mourrez pas de la BPCO et de l'infection, vous allez peut-être faire une pneumopathie, décompenser d'autres maladies. Bref, le petit bon que vous avez reçu, allez chez le pharmacien, l'infirmière peut vous vacciner ou votre médecin traitant.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, une question, est-il possible d'avoir une sexualité en couple épanouie sans aucune pénétration? Elle nous dira tout, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien ?
Je vais très bien, je vous remercie. Alors, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Carole, 35 ans, je vais vous la lire. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés au lycée. Depuis, nous avons construit notre sexualité quasi essentiellement sur des masturbations mutuelles ou côte à côte. La pénétration n'est que très rare, alors que dernièrement, j'en parlais naturellement à des amies, elles ont eu l'air de trouver ça très bizarre. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est fréquent ces couples qui se masturbent quasiment uniquement ?
Oui, ça, alors évidemment ça pose question, hein, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se masturbe et qu'on ne se pénètre pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on se pénètre et qu'on ne se masturbe pas ? On peut se poser aussi la question, après tout, les jeux amoureux appartiennent aux amoureux.
C'est ça. Jimmy ?
Mais ce serait quoi l'avantage finalement ? Pourquoi ils se masturbent côte à côte, comme s'ils étaient chacun de leur côté ? Il y a un intérêt.
Alors déjà, est-ce qu'ils se masturbent côte à côte ou est-ce que chacun masturbe l'autre, hein, parce que ça peut être
apparemment
aussi ça.
C'est un peu les deux.
Voilà. Parce que alors c'est l'intérêt, c'est d'éviter le coït avec tout ce qu'il représente d'encombrant pour l'un ou pour l'autre, ou de difficultés de jouissance, parce que souvent la masturbation étant dans la mesure où le couple, chacun séparément avant de se rencontrer, a eu un rituel de masturbation, une bonne connaissance de sa masturbation et du plaisir ressenti, pour peu que le Covid n'ait pas apporté les mêmes réponses, les mêmes facilités, eh bien ils préfèrent s'apporter du plaisir, donc ils vont là où c'est plus rapide d'obtenir leur plaisir. Et puis du coup, ils enferment un petit peu la relation là-dedans, un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu beaucoup. Et le Covid devient quelque chose plutôt de mise sur la touche, puisque plus en difficulté, les confrontant avec leur impuissance d'une certaine manière à la jouissance ou à la capacité à en donner.
Vous dites qu'ils se sont enfermés en quelque sorte, parce qu'ils se sont rencontrés très jeunes apparemment au lycée, ils ont à peu près 35 ans aujourd'hui. Pourquoi ça serait enfermant? En même temps, ça ne pourrait pas être juste une sexualité épanouie comme ça, parce que est-ce que le coït, il est vraiment obligatoire finalement?
Bien sûr que non, il n'est pas obligatoire. Simplement, réduire sa sexualité à de la masturbation, c'est réduire sa sexualité à la connaissance qu'on en a depuis qu'on est enfant. Donc il y a quelque chose d'assez enfantin que de rester là-dessus. Ils se sont rencontrés tôt, ils ont donc des repères qui sont des repères d'enfants et qu'ils ont gardés. Et donc on joue à touche pipi. Alors évidemment que ce n'est ni du pipi ni touche. Voilà, donc mais c'est en tout cas ce qu'on se disait ou ce qu'on pouvait dire quand on était enfant et qu'on se caressait, au lieu d'oser une sexualité qui est pénétrante avec évidemment tout ce que cela raconte de possible, notamment de possible fécondation.
Jimmy ?
On dit souvent que les corps sont faits pour s'emboîter. Est-ce que le fait qu'ils ne s'emboîtent plus ou pas n'est pas
très
la preuve
apparemment
très
chez
que
eux,
ouais. Finalement ils sont incompatibles et que y a quelque chose qui s'est brisé un petit peu dans leur relation ?
Alors, si tant est qu'elle a pu se faire, hein, bien évidemment, mais en tout cas, quelque chose qui n'arrive pas à se compléter. Donc, c'est aussi un déni, d'une certaine manière, de nos spécificités. Parce que, justement, l'emboîtement, c'est aussi faire avec ce qui nous manque, et du coup, aller chercher de l'autre ce qui nous manque pour, justement, recréer ce fantasme complètement, complètement fou, qui est de vouloir faire qu'un en étant complètement... rempli par l'autre ou complété par l'autre.
Comment on explique cette absence totale de pénétration ? Est-ce que ça, il faut quand même qu'ils s'y remettent ? Enfin, là, la question elle est posée, donc ça veut dire quand même que même cette dame, elle trouve ça bizarre, non ? Enfin, elle se dit il faut que ça change, quoi.
Si elle en a parlé d'une façon même anecdotique,
à ses amis.
C'était un petit peu pour voir si tout ça était tout à fait normal, puisque tout le monde est en quête de normalité. Encore une fois, liberté, liberté chérie. Ceci étant, quand même, elle s'interroge. Sinon, elle ne mettrait pas ce sujet sur la table.
S'ils veulent un bébé à un moment donné, il faudra bien... parce que là, elle n'en parle pas. On ne sait pas s'ils sont parents, mais on est obligé d'avoir une pénétration quand même.
Absolument. Mais souvent, c'est aussi une façon tout à fait inconsciente d'éviter la fécondation.
C'est peut-être ça, le problème.
C'est le meilleur contraceptif. Hein, quand même, c'est de ne pas faire l'amour. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses derrière tout ça. Il peut y avoir ou une sexualité qui ne s'est pas autorisée à devenir mature, ou une peur des conséquences de la sexualité pénétrante, à savoir un bébé, avec des angoisses très fortes, même si le discours c'était « oui, je voudrais un bébé ». Une peur aussi pour l'homme de risquer de se sentir coincé, castré, symboliquement, bien sûr. Tout ça peut être à l'origine d'une difficulté à aller vers le coït, ou une sexualité qui n'a pas de plaisir, ou qui a des douleurs, qui rencontre des douleurs.
Et après tout, s'ils sont heureux comme ça, épanouis, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent continuer tout simplement et qu'ils n'ont pas forcément besoin de cette pénétration qui est pour nous la norme en fait et qui pour eux ne l'est pas ?
Bien sûr, bien sûr. Chacun, encore une fois, chacun construit la relation à la mesure de sa capacité. La seule chose, c'est qu'il faut être vigilant. Il m'est arrivé de recevoir des couples envoyés par des gynécologues parce qu'ils étaient infertiles. Et la première question qui était la mienne était de savoir s'ils faisaient l'amour d'abord, ce à quoi on me répondait oui. Et ma deuxième question était comment ? Et il est assez curieux de penser que quand on demande des précisions, et bien parfois, effectivement, il ne s'agit tout simplement pas de coït, de pas de pénétration et donc pas de possibilité de fertilité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré à l'antibiorésistance. On vous expliquera pourquoi certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques avec notre invité, le professeur France Roblot. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipée sauvage. Je suis sûre qu'ils sont en pleine forme. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive avec non pas un invité, mais une foultitude d'invités que vous connaissez tous, Kevina, Cyprien, Monsieur Latouche. Oui, Elie Semoun est notre invité et il vient de me dire qu'il était bien décidé à nous aider à remonter les audiences d'Europe 1. Je crois qu'on peut lui faire confiance.
Merci Mathieu, on sera à l'écoute avec une foultitude de bons invités, on a vu, super, merci beaucoup, restez sur Europe 1.